Bonjour à tous. Alors effectivement, je prends la parole pour commencer une nouvelle série avec vous, une série de prédications sur la première épître de Jean. Et j'aimerais commencer par un sondage d'abord. Est-ce que certains d'entre vous sont allés au cinéma récemment? Très peu de personnes. Autre question, combien d'entre vous aiment les films tirés d'une histoire vraie? Voilà, là, il y en a déjà un peu plus. Et effectivement, nous aimons aujourd'hui les films tirés d'une histoire vraie. La mention « d'après une histoire vraie » ajoute de la force à l'histoire en question. Ce n'est pas juste de la fiction. Certes, ce qui est raconté est parfois un peu romancé, mais les personnages ont vraiment existé. Et l'enchaînement des événements s'est vraiment déroulé de cette manière. Nous aimons ces films parce qu'ils nous parlent de la vraie vie. Et cet après-midi, nous allons parler d'une histoire vraie. Et c'est l'apôtre Jean qui va nous en parler. L'épître qu'il adresse aux chrétiens de son époque n'a pas été écrite d'après une histoire vraie, mais elle rapporte la véritable histoire de Jésus. Et il importe d'insister sur le mot « véritable », parce qu'à cette époque, les chrétiens à qui Jean s'adresse sont confrontés à des enseignements erronés. Ces chrétiens font partie d'une génération qui n'a pas connu Jésus lorsqu'il était sur terre. Nous sommes probablement en Asie mineure, dans les années 80-90 après Jésus-Christ, soit presque 60 ans après les événements qui entourent la vie terrestre de Jésus. Et à cette époque, les chrétiens semblent douter et sont troublés par certaines personnes qui ont quitté l'Église. Et en fait, ces personnes ont quitté l'Église parce qu'elles étaient influencées par des enseignements philosophiques. Et entre autres, l'idée suivante que la matière ou tout ce qui est matériel est mauvais. Que l'esprit et la matière, ça ne peut pas coller ensemble. L'esprit, c'est plutôt quelque chose de bon, mais la matière, c'est quelque chose de mauvais. Et ce qui a amené ces gens à enseigner, à affirmer qu'il n'était pas possible que le Christ soit devenu un homme. Que le Christ ait pu revêtir un corps de la matière. Est-ce que Dieu, qui est esprit, est-ce que Dieu peut vraiment être un homme? L'apôtre Jean écrit cette lettre pour rappeler aux chrétiens les fondements de la foi chrétienne. Et pour les rassurer, ils ont reçu le bon enseignement concernant Jésus. Et je vous propose de lire le début de cette lettre. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Je vous invite à prier. Seigneur, nous venons de lire ta parole et nous croyons que ta parole est la vérité. Que tu ouvres notre intelligence, que tu nous parles. Vraiment, à travers ce que nous venons de lire, que tu nous enseignes et que tu transformes nos cœurs afin que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous demandes. Merci Seigneur encore de nous donner cette occasion de pouvoir lire librement ta parole, de pouvoir l'étudier ensemble, de pouvoir fixer nos regards sur ton enseignement. Parce que nous savons qu'il vient de toi et nous te louons pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans un contexte où il s'agit de discerner le vrai du faux, l'apôtre Jean veut rassurer ses destinataires. Ces derniers peuvent avoir confiance dans le témoignage de Jean. Ils peuvent avoir confiance dans le témoignage de Jean et des autres apôtres. C'est eux qui rapportent la bonne version concernant Jésus-Christ. Et nous voyons plus précisément à travers ce texte que Dieu nous invite, par le message des apôtres, à être en communion avec lui. Dieu nous invite, par ce message, le message que délivrent les apôtres, Dieu nous invite à être en communion avec lui. Et je vous propose de nous pencher sur trois aspects de ce message. D'abord, le premier aspect est que ce message des apôtres, ce message apostolique, se présente comme un témoignage fiable. Et il faut que nous puissions l'affirmer. La lettre de Jean ne commence pas comme d'autres lettres dans le Nouveau Testament. L'auteur ne se présente pas ici. Mais les ressemblances, les similitudes avec l'évangile de Jean, ainsi que les témoignages de l'époque, de l'Antiquité, ont amené les spécialistes à reconnaître que l'auteur de cette lettre était Jean. Et nous devons aussi faire preuve de foi pour y croire, croire que cette lettre est bien de Jean. Et d'emblée, Jean se place dans le groupe de ceux qui ont connu Jésus. Et le pronom « nous » est omniprésent dans ces quatre premiers versets. Ce « nous » renvoie sans doute au groupe des apôtres qui ont marché aux côtés de Jésus. Et vous le voyez ici, nous avons entendu, nous avons vu de nos yeux, nous avons contemplé, nos mains ont touché. Jean faisait partie de ces hommes qui ont eu le privilège de côtoyer Jésus. Et assurément, les disciples de Jésus le connaissaient bien, même très bien. Ils ont vécu avec lui, ils ont mangé avec lui. Ils ont voyagé, ils l'ont suivi partout où Jésus comptait aller. Ils ont pu voir ses miracles, ils ont écouté ses enseignements. Ils ont même pu le toucher, car Jésus était là, en chair et en os. Et sans doute que beaucoup d'entre nous auraient aimé être là. J'aurais aimé être là, pour pouvoir toucher Jésus. Mais comme les chrétiens à qui s'adresse Jean, nous n'avons à notre disposition que le témoignage des apôtres. Et le pronom « nous » atteste que Jean n'a pas été le seul à faire cette expérience. Et comme il a été aux premières loges, eh bien son témoignage a du poids pour nous. Et vous savez, par exemple, dans une enquête policière, lorsqu'il s'agit de découvrir la vérité, il n'y a rien de plus précieux que d'avoir un témoin oculaire sous la main. Parce que ce témoin oculaire va pouvoir nous raconter ce qui s'est vraiment passé. Alors évidemment, c'est sous réserve que ce témoin puisse dire réellement ce qui s'est passé. Et concernant Jean et les apôtres, nous n'avons pas lieu de douter de ce qu'ils rapportent à propos de Jésus. Ils étaient là, et pas nous. Non seulement Jean a vécu toutes ces choses, mais avec ses compagnons, il a aussi reçu la mission de l'annoncer. Et le verbe ici est employé à deux reprises. Au verset 2, « Nous vous annonçons la vie éternelle. » Et au verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. » Depuis près de 60 ans, c'est ce que les apôtres ont fait. Annoncer la bonne nouvelle qui a pour centre Jésus-Christ. Et Jésus les avait déjà préparés à cela, à leur rôle de témoin. Par exemple, dans Jean 15, 27, nous lisons « Et vous aussi, c'est Jésus qui parle à ses disciples, et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. Vous me rendrez témoignage. » Jésus a choisi ces hommes pour être les témoins directs de son ministère, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Et Jésus les a envoyés pour annoncer que le salut se trouve en lui. L'apôtre Jean ne fait que ce que son maître lui a ordonné avant de quitter la terre. Nous lisons dans Matthieu 28, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Voilà la mission que Jean et les autres avaient reçue. Et voilà la mission que nous avons ici sous les yeux, qui s'accomplit. Oui, c'est ce que Jean annonce à ses destinataires. Et c'est ainsi que Dieu nous a fait parvenir l'Évangile. Je ne sais pas si on s'en rend toujours compte, mais c'est ainsi qu'il a fait parvenir l'Évangile jusqu'à nous. Par la parole de ces hommes, par la transmission fidèle de la vérité. Si nous croyons aujourd'hui, c'est peut-être parce que quelqu'un nous a parlé de Jésus-Christ. Quelqu'un nous a parlé du message de l'Évangile. Peut-être que nous l'avons nous-mêmes lu dans les Évangiles. Mais en fait, c'est surtout parce que les apôtres que Jésus a choisis ont d'abord parlé à leurs contemporains, puis écrit ce qu'ils avaient vu et entendu. Et c'est ce que nous avons là, dans la Bible. Dieu a choisi ce moyen pour que nous connaissions encore aujourd'hui, au XXIe siècle, la vérité au sujet de Jésus-Christ. Et ce moyen est plus fiable que tout ce que nous pouvons entendre dans ce monde aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, on va dire certaines choses, peut-être que quelqu'un va prétendre avoir une nouvelle révélation concernant Jésus. Mais en fait, rien n'est plus fiable que ce qui est écrit ici. Parce que les apôtres l'ont vu. Et cela doit affermir, renforcer notre foi dans ce qui se trouve dans les Écritures. On doit y attacher tout notre cœur. Autrement, notre foi tombe comme un château de cartes si rien n'est vrai dedans. Mais les verbes que Jean emploie ici attestent non seulement qu'il est un témoin fiable, mais aussi qu'il a été au contact d'un véritable homme. Et il est important de le souligner ici. Et cet homme, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et c'est ce qui rend ce message si incroyable. Jésus, Dieu de toute éternité, est devenu homme. Revenons au premier verset. « Ce qui était dès le commencement, un peu plus loin concernant la parole de la vie. » Visiblement, Jean et ses compagnons ont suivi un homme qui n'était pas comme les autres. Alors le début de ce verset peut être compris de manière différente, ou en tout cas a été compris de manière différente. Est-ce que ce commencement renvoie à la création ? Et donc celui qui était dès le commencement, c'est celui qui a toujours été ? Ou bien est-ce que cela renvoie plutôt au début du ministère de Jésus, là où Jean était déjà présent et a pu assister à ce début ? On peut hésiter. Mais si on compare avec le premier verset de l'évangile de Jean, que Jean lui-même a écrit, « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était Dieu et la parole... La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Comme dans l'Évangile, Jean désigne son maître par ce titre, la parole. Et plus précisément, la parole de la vie. Qui peut être désigné ainsi, si ce n'est Dieu ? De qui vient la vie ? Et là, nous touchons à une vérité qui devrait continuer de nous émerveiller. Ce qui doit nous émerveiller, c'est que le Dieu, créateur de la vie, est venu sur terre, en tant qu'homme. Est-ce que cela vous émerveille encore aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est un message que vous avez tellement entendu que finalement, ça semble un peu lassant d'entendre toujours le même message ? Mais c'est quelque chose de merveilleux que le Dieu créateur de la vie est venu sur terre en tant qu'homme. À l'époque de l'apôtre Jean, les gens remettaient en question cette affirmation. Et Jean le dit plus tard dans sa lettre au chapitre 4, « Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain que Jésus est venu vient de Dieu. » Et c'est ce que nous affirmons. « Mais tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. » Et ce Jésus-là, c'est ce Jésus pleinement homme. Le fait que des hommes comme Jean aient vécu avec Jésus montre que Jésus était vraiment un homme, puisqu'ils ont pu le voir, ils ont pu le toucher, ils ont pu l'entendre. Et bien plus encore, ce fait est en fait un fait historique. Le Dieu éternel est venu dans notre histoire. C'est un fait historique. Et si vous aimez l'histoire, vous savez que c'est important de pouvoir se rappeler les événements qui se sont déroulés dans le passé. Et là, il y a un événement important pour nous, pour notre foi chrétienne. C'est le fait qu'un jour, il y a près de cela 2000 ans, Dieu est venu sur terre. C'est un fait historique. Et notre foi repose sur ce fait historique. Je pense que c'est important de pouvoir encore l'entendre et encore le méditer. À deux reprises, Jean va insister. La vie a été manifestée. La vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Mettez-vous juste un instant à la place des apôtres. Jésus était parmi vous et vous découvrez peu à peu que c'est Dieu en chair et en os. Jésus était parmi vous et vous vous rendez compte que c'était Dieu en personne qui était avec vous. Jean dit ici que la vie a été manifestée, cette vie qui était auprès du Père. Et cette précision nous rappelle que Jésus, en tant que Dieu, le Fils, a toujours existé. Il n'est pas apparu en l'an zéro. Dieu a toujours existé. Jésus a toujours existé. La vie a été manifestée. Et c'est une déclaration si simple et en même temps si profonde. Et j'aimerais un petit peu vous titiller, vous faire réfléchir sur qu'est-ce que la vie en fait ? Si ça devait être un sujet de philo, qu'est-ce que la vie ? Vous avez 4 heures. Comment définir ce qu'est la vie ? C'est quelque chose que nous expérimentons. La vie, c'est ce qu'on expérimente. C'est ce que nous voyons chez les autres. Je vois que vous êtes vivant, vous voyez que je le suis aussi. C'est quelque chose que nous voyons dans la création, la vie. Mais dire que Jésus est la vie éternelle, cela dépasse notre compréhension. Et en même temps, cela nous rassure. Cela nous rassure parce que ceux qui cherchent la vie éternelle la trouvent en Jésus. Lui qui est la vie. En la personne de Jésus, Dieu s'est révélé à nous tel qu'il est. Il est la vie. Il est celui qui donne la vie, une vie éternelle, une vie qui n'a pas de fin. Ce message est tout simplement incroyable. Et en même temps, il faut y croire. La vie a été manifestée. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, a été au plus près de notre réalité, au plus près de notre condition humaine. Et puisque Jean s'adressait à des chrétiens, il n'avait pas besoin d'expliciter davantage le message de l'Évangile ici. Mais pour nous, il faut quand même rappeler pourquoi il était si important que Dieu s'incarne. Nous pourrions en parler des heures, mais je vais le résumer simplement. Dieu a fait cela. Dieu s'est incarné. Parce que pour payer pour des fautes commises par des hommes, il fallait qu'un homme meure. C'est ce que Jésus a fait. Et parce que Jésus est Dieu, son sacrifice a une valeur infinie. Valable non pas pour une personne, mais pour l'humanité. Voilà comment il faut comprendre l'incarnation. Et tout à l'heure, quelqu'un a prié à ce sujet. Par sa mort et par sa résurrection, Jésus nous donne accès à la vie. L'incarnation n'a pas d'autre but que notre salut. Et en cette période de l'Avent, alors que nous allons célébrer cette incarnation à Noël, méditons encore sur cette réalité historique. Celui qui a toujours existé est entré dans notre histoire. Il a marqué notre histoire. Jean nous annonce qu'il l'a vu, la vie en personne. Alors juste, j'aimerais vous inviter à prendre quelques instants pour adorer le Seigneur dans la prière. Vraiment, prenons juste quelques instants pour adorer le Seigneur, pour ce qu'il a fait, juste avant de poursuivre. Nous avons vu que le message de l'Évangile repose sur un témoignage fiable, celui des apôtres que Jésus a choisis. Ce qu'ils ont vu et entendu, ce n'est rien de moins que le Fils de Dieu en chair et en os. Et c'est ce qui rend ce message si incroyable. Alors à présent, nous allons voir que l'apôtre Jean explicite ses intentions. Le but visé par le message des apôtres, c'est la communion. Une communion véritable. Je crois que c'est depuis la sortie d'un certain film Marvel que nous entendons beaucoup parler de team. Vous savez, le terme anglais pour désigner une équipe. Les jeunes, et peut-être les moins jeunes, utilisent ce mot pour désigner le camp auquel ils appartiennent. Je suis dans la team Intel ou team Intel. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Mais voilà, on emploie ce langage assez souvent. Pour prendre un exemple très banal, il y a ceux qui sont dans la team café et ceux qui sont dans la team thé. C'est un exemple très banal. Il y a ceux qui sont dans la team, on met d'abord les céréales et ensuite le lait. Et puis ceux qui sont dans la team, on met d'abord le lait et ensuite les céréales. Et puis, chacun va essayer de convaincre l'autre que sa team est la meilleure. D'un certain côté, l'apôtre Jean ici fait la même chose. Il encourage ses destinataires à rester dans sa team. Nous lisons au verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Alors, dans des termes plus modernes, pour que vous aussi, vous soyez dans la même team. Le but de ce message, le but de l'Évangile, est que Jean et les chrétiens d'Asie mineure restent sur la même longueur d'onde, qu'ils partagent la même foi en Jésus. Et cette communion fraternelle, et on en a parlé aussi durant ce culte, cette communion fraternelle est directement liée à une autre communion, celle qui est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Alors, lorsqu'on parle de communion, nous faisons référence à une étroite relation entre deux ou plusieurs personnes. Il y a l'idée d'une bonne entente, d'un lien fort entre ces personnes. Et le message de l'Évangile nous conduit directement à la communion la plus importante, celle que nous pouvons avoir avec Dieu. Car le plus important dans notre vie, le plus important est que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et c'est l'œuvre parfaite de Jésus qui permet une telle réconciliation. Parce que Dieu ne fait plus peser sur nous le poids de nos fautes. Il peut nous regarder désormais de manière favorable à cause de Jésus-Christ. Voilà quelle est la nature de cette communion possible avec Dieu, d'être réconcilié avec lui, de vivre une relation intime avec lui. Et concrètement, comment vivons-nous cette communion avec le Père et le Fils? Bien souvent, je constate à travers les prières ou la manière de parler de Dieu que nous connaissons un déséquilibre. Certains vont abondamment prier Jésus sans faire mention du Père. Et d'autres s'adressent au Père, mais intérieurement, ils ont l'impression de délaisser Jésus. Alors, comment trouver l'équilibre ? Ici, il nous est dit que notre communion est avec le Père et avec son Fils. Alors, il nous faut remettre un peu d'ordre dans tout ça à partir de l'enseignement biblique. Et je mentionnerai trois choses que nous retrouvons d'ailleurs dans l'évangile de Jean. La première chose à affirmer, que nous lisons dans Jean 14, verset 6, c'est que nul ne vient au Père sans passer par Jésus. Si Jésus s'est manifesté dans notre histoire, c'est pour nous révéler le Père. La deuxième chose est que Jésus a déclaré à ses disciples, dans le même chapitre au verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Le « nous » désigne Dieu le Père et Jésus lui-même. Et Jésus dit cela précisément après avoir promis qu'il enverra à ses disciples le Saint-Esprit. Et la troisième chose que nous pouvons dire, et que nous lisons dans Jean 17 au verset 3, c'est que la vie éternelle consiste à connaître Dieu, le Père, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Voyez qu'il y a toujours cette mention de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Ce n'est pas l'un sans l'autre. Et la vie chrétienne consiste à constamment chercher à connaître Dieu à partir de ce qu'il nous a révélé de lui. Et ce que nous savons de lui, c'est qu'il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et dans la prière, et c'est un peu le côté pratique que je vous propose, dans la prière, gardons l'équilibre à ce niveau-là. Parce que c'est aussi à travers la prière que nous sommes en communion avec Dieu. Mais comment nous prions Dieu ? Personnellement, pendant de nombreuses années, je n'ai pas appelé Dieu Père dans mes prières. Je pense que j'avais du mal à m'approprier cette vérité quand Jésus, Dieu était mon Père et qu'il m'avait adopté comme son enfant. En fait, le mot « Seigneur » suffisait pour moi. Et très souvent, ce n'est pas une erreur de prier le Seigneur ainsi. Mais je ne disais pas souvent « Père ». Pourquoi ? Alors qu'il est mon Père. Mais je me suis rendu compte il y a peu de temps que je passais à côté d'une relation plus juste avec Dieu. Il est plus juste et plus précis d'appeler Dieu Père si nous croyons effectivement en Jésus son Fils. Et cela, peut-être, peut réformer notre manière de prier. Quand je m'adresse à Dieu, si je le reconnais comme mon Père, pourquoi je ne l'appelle pas ainsi ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, on peut retenir une chose, c'est que Jésus nous a appris à prier notre Père. Et cela doit nous faire réfléchir. Une autre réflexion m'était venue que lorsque nous prions, si nous prions uniquement, par exemple, en nous adressant à Jésus, on a tendance à ne jamais parler du Père. Mais si nous prions le Père, eh bien, parfois, nous mentionnons Jésus dans notre prière. Et ainsi, l'équilibre se fait. Et d'ailleurs, on prie au nom de Jésus. Mais voilà, je vous laisse continuer à réfléchir là-dessus. Mais il y a quelque chose qui touche à notre vie de prière. Cette communion avec le Fils, avec le Père et avec le Fils. J'aimerais juste terminer avec le dernier verset. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Ici, Jean, quand il écrit cela, il dit « afin que notre joie ». Alors, dans d'autres versions, il y a « afin que votre joie ». Voilà, on peut hésiter, mais ici, « afin que notre joie soit complète ». Qu'est-ce qui met un comble à la joie de l'apôtre ? Ben, en fait, de savoir que ses frères et sœurs restent attachés à la vraie foi, qu'ils restent attachés dans cette communion à Dieu. Cette véritable communion. Et c'est l'idée même de cette communion qui réjouit le cœur de l'apôtre, comme elle devrait nous réjouir. Après tout, savoir que plus d'hommes et plus de femmes rejoignent notre team est forcément une bonne nouvelle. Et forcément quelque chose qui doit nous rendre joyeux. Joyeux parce que Dieu sauve encore aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore pris de décision par rapport à Jésus, eh bien, je vous laisse encore entendre cette invitation à travers ce texte de la part de Dieu. Jésus, le Dieu de toute éternité, est venu pour vous réconcilier avec Dieu. Les apôtres ont vécu avec lui, ils ont cru en lui, et c'est pourquoi ils veulent partager cette bonne nouvelle. Et l'invitation reste ouverte pour vous, aujourd'hui. Alors si vous ne croyez pas encore, avec ce texte, nous voulons vous inviter à croire et à nous rejoindre dans cette communion, les uns avec les autres, et avec Dieu, le Père et le Fils. Alors, à vous d'en juger. Est-il préférable de regarder un film d'après une histoire vraie ou bien de connaître cette histoire vraie ? Les chrétiens d'Asie mineure avaient besoin d'être rassurés sur ce que Jean et d'autres apôtres annonçaient. Si leur histoire est authentique, alors ils sont sûrs d'être dans la bonne team, dans la bonne équipe. Et pour sûr, cette histoire autour du Fils de Dieu est authentique. D'abord parce que Jean fait partie de ceux qui ont vécu avec Jésus. Et nous pouvons nous fier à son témoignage. Ensuite, Jean annonce un message incroyable qui est le même que les autres apôtres. Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Et par ce message, nous sommes assurés que la vraie vie consiste à être en communion avec le Père et le Fils. Et comme les apôtres, bien que nous ne soyons pas des témoins directs, ne manquons pas l'occasion de raconter cette histoire que nous croyons vraie. C'est une histoire vraie, et elle mérite d'être racontée. Dieu est vraiment venu dans notre histoire, en la personne de Jésus. Et la promesse est que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, ta parole se suffirait à elle-même pour exprimer toute la vérité que je viens d'exposer. Il y a tellement de profondeur dans ce que tu as réalisé pour le salut des hommes. Oui, nous te prions, Père, que tu nous éclaires encore et encore sur ces vérités, que nous puissions continuer à les méditer durant cette période de l'Avent, tout particulièrement. Méditer le fait que tu aies envoyé ton Fils. Et c'est vrai, Seigneur, que nos mots ne sont pas toujours suffisants pour t'exprimer toute notre reconnaissance par rapport à cet acte d'incarnation pour notre salut. Mais vraiment, Seigneur, nous voulons te remercier parce que grâce à cela, nous pouvons être en communion avec toi. Et nous avons tellement encore à connaître de toi et à approfondir notre relation avec toi. Aide-nous, tout à chacun, à pouvoir approfondir cette relation, à vraiment rechercher le Dieu véritable. Et merci encore pour le témoignage que tu nous as laissé à travers ce qu'ont dit les apôtres, à travers ce que nous a dit l'apôtre Jean. On veut vraiment te louer pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen.